Aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus de projets qui se développent sur nos sols, nos champs, nos zones agricoles. Et donc l'impact des énergies renouvelables sur l'environnement, le paysage et leur intégration au réseau du transport de l'énergie sont des enjeux que nous devons prendre en compte dans le SCOT. Donc c'est pour cela que nous vous proposons les interventions à venir. Et j'introduis donc Madame Annie Vieux, qui est présidente de la mission régionale d'autorité environnementale, et Monsieur David Pichot, qui est chef de département autorité environnementale à la MRAE. Et donc la MRAE, rapidement, donc, a pour rôle de donner des avis sur les évaluations environnementales afin d'apporter une expertise neutre et indépendante.
Merci beaucoup et merci surtout de nous donner l'occasion de nous exprimer dans une phase où vous êtes encore en atelier de réflexion. Parce que donc, nous produisons des avis avant l'enquête publique, mais finalement, en fin de processus, quand tout est déjà plus ou moins calé, articulé, discuté, c'est quelquefois des compromis qui sont faits entre les différents enjeux sur les territoires. Et c'est vrai que quelquefois, nos avis peuvent déranger parce qu'on dit bah, on a fait tout ce travail pendant 4-5 ans, puis finalement, à la fin, la MRAE donne un avis qui nous dérange. Tout ce qu'on peut dire en amont peut vous aider dans vos réflexions et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise en fin de parcours, pour vous rappeler aussi dans quel contexte on agit et pourquoi on émet des avis. Donc la MRAE, c'est une organisation composite. Les avis sont préparés par des agents de l'ADREAL et c'est David Pichot qui coordonne et qui pilote les agents de l'ADREAL qui réalisent les avis. Et ensuite, on a une entité indépendante dont je suis sur la présidence, qui est entre 8 et 10 personnes et qui retravaille ces propositions d'avis. L'idée étant, dans nos avis, de regarder si les projets et si les études d'impact et si les mesures d'évitement de réduction, les projets ou les plans programmes et les mesures d'évitement de réduction et de compensation permettent une meilleure prise en compte de l'environnement dans ce qui va sortir. Prise en compte de l'environnement, alors on intervient sur un panel assez large qui peut être la santé humaine, les paysages, l'eau, les milieux aquatiques, la biodiversité, mais aussi la qualité de l'air, les émissions de gaz à effet de serre ou le bruit. Donc on intervient sur tous ces champs et on fait des recommandations. Ensuite, la collectivité en retour s'exprime et c'est tout ça qui est joint à la consultation du public qui permet aux acteurs de la consultation de mieux comprendre ce qui est attendu et de mieux décrypter ce qu'il y a dans les évaluations environnementales. Donc tout ce qu'on peut dire, échanger à l'amont, peut vous aider pour la suite, pour éviter d'aller dans des voies qui ne seraient pas compatibles. Alors compatibles à quoi? Quand on parle de prise en compte des enjeux de l'environnement, c'est déjà tout ce qui est inscrit dans les grandes lois et dans les grands engagements de l'État. C'est-à-dire qu'on s'inscrit et on vérifie qu'il y a une bonne déclinaison des politiques publiques, nationales et européennes, en matière de respect du code de l'environnement. On ne se prononce pas sur la pertinence des projets, on n'invente pas des réglementations, on ne demande pas de faire de la surréglementation. On rappelle et on recommande de vérifier comment votre plan programme, votre SCOT, s'inscrit dans les trajectoires nationales qui sont fixées par l'accord de Paris, la loi climat et résilience, la loi biodiversité. C'est tout ça qu'on vérifie et qu'on vous demande de bien prendre en compte. Alors, il y a des exposés très précis sur ce que c'est que la sobriété, le développement des énergies renouvelables. Moi, je me contenterai de m'appuyer sur ce qu'on dit de façon habituelle sur les SCOT. Hein. C'est des éléments de langage qui sont issus de nos avis. D'une part, à l'amont, sur effectivement la sobriété. Qu'est-ce que peut proposer un SCOT pour atteindre des objectifs de sobriété? Et ensuite, à quoi peut servir un SCOT pour favoriser le développement des énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique. Donc, à l'amont donc, des objectifs de développement des ENR, il y a effectivement cette sobriété. Et qu'est-ce qu'on attend de la collectivité? C'est qu'elle mette en place un cadre, SCOT, qui permette de diminuer essentiellement la dépendance aux énergies fossiles. Alors, c'est important pour le citoyen, c'est parce que ça touche des aspects de qualité de vie, de santé humaine, par rapport à la pollution de l'air, par rapport au bruit qui peut être évité si on a moins de routes. Offrir aussi aux citoyens une alternative à la voiture, parce qu'on n'est pas à l'abri, on l'a vu récemment, d'une flambée des prix. Bon, ça, c'est pas notre sujet, mais ça contribue aussi de prendre en compte ces aspects, de diminuer la dépendance aux énergies fossiles. Alors, comment un SCOT peut agir dans ces domaines-là? Il y a d'une part potentiellement la limitation des extensions urbaines en dehors des pôles et au contraire en essayant de favoriser les secteurs les mieux desservis par les transports en commun, par exemple. Ça veut dire aussi que dans l'armature territoriale que vous dessinez au sein de votre SCOT, de mieux définir chacune des polarités, de mieux évaluer les incidences de ces cartographies en termes de déplacement et d'émissions de gaz à effet de serre, puisque nous, nos recommandations porteront sur le souci, comment vous inscrivez dans les trajectoires de neutralité carbone. En quoi vous y contribuez ? Si vous n'y contribuez pas, qu'est-ce que vous mettez en compensation pour contribuer aux objectifs nationaux de neutralité carbone ? Donc ça, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans le volet mobilité du DOO par des orientations qui peuvent, par exemple, garantir que l'urbanisation se développera prioritairement dans les secteurs les mieux desservis par les transports en commun, de subordonner, s'il n'y a pas encore de transports en commun, de subordonner peut-être l'ouverture de nouveaux secteurs au développement des transports collectifs, développer des modes doux. Voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on revient systématiquement dans la lecture des évaluations environnementales et dans les plans-programmes, et sur lesquelles on fait assez habituellement des recommandations parce qu'il y a toujours des faiblesses sur ces plans-là. Il y a aussi l'aspect écologie urbaine. Comment on vit mieux en intégrant ces soucis ? Déjà par la limitation des risques d'îlots de chaleur urbaine, et ça peut s'articuler avec le souci qu'on a de préservation de la biodiversité, par exemple en intégrant les trames vertes et bleues, en réintroduisant de la nature en ville. C'est à la fois un sujet de meilleure acceptabilité parce qu'on parle aussi de densification. Vous avez fait des PLU avant les SCOT, souvent on rappelle qu'avant d'aller consommer de l'espace à l'extérieur, il faut réfléchir à mieux utiliser l'espace, donc en densifiant ou en réoccupant des surfaces inhabitées dans les bourgs. Mais ça veut dire redensifier, ça veut dire qu'il faut aussi donner des espaces de respiration. Et ces espaces de respiration peuvent aussi contribuer à une certaine sobriété énergétique, notamment sur la thématique des îlots de chaleur urbaine. Alors ça peut se traduire dans les orientations des SCOT par une désimperméabilisation de certains sols, de réintroduire des espèces végétales, de végétaliser le bâti, tout à l'heure on en a parlé, en maintenant des corridors écologiques. Donc tout ça, ça se rejoint. Il y a aussi des orientations du SCOT qui peuvent encourager à favoriser via les PLU, puisque tout ça doit se décliner ensuite dans les PLU, en termes de performance énergétique des bâtiments. Rappeliez tout à l'heure la nouvelle réglementation, mais il y a aussi le bâti existant et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez bien pris en compte, sur lequel il faut poursuivre. Voilà, c'est tout ça sur lequel vous pouvez vous attendre à avoir des recommandations de notre part. Et sur le sujet particulier du développement des énergies renouvelables, d'une part, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais tout ça, ça a été bien expliqué. Donc il y a plusieurs types d'énergies renouvelables et c'est le mix énergétique que vous pouvez imaginer pour votre territoire, comment territorialiser des objectifs de développement des NR compte tenu de vos potentialités. Est-ce que vous avez suffisamment de forêts exploitables, sans mettre en danger aussi l'avenir de la forêt ? Est-ce que vous avez suffisamment de terrain à disposition pour créer du photovoltaïque ? Est-ce que les endroits qui ont été prévus pour réinstaller ou renforcer l'efficacité de seuils hydroélectriques sont bien positionnés compte tenu d'autres contraintes ? Mais tout ça, et ça rejoint la notion de cartographie qui est évoquée dans la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, doit se faire en ayant une analyse du territoire à l'amont pour identifier les zones où il y a le plus d'enjeux environnementaux, pour les éviter ces zones-là. Parce qu'on ne peut pas, pour favoriser une transition énergétique, négliger la transition écologique et la loi sur la biodiversité qui s'impose aussi au même titre que la loi énergie-climat. Donc, c'est dans les zonages. Alors, certes, la loi d'accélération des énergies renouvelables aborde le sujet de la cartographie et du positionnement via les communes, mais les communes feront d'autant mieux leur travail qu'à l'amont, il y aura une réflexion au niveau du SCOT et des intercommunalités. Donc, d'avoir cette réflexion globale, parce qu'on ne peut pas tout définir à l'échelle d'une commune, pour voir quels sont les secteurs à enjeux forts qu'il faut absolument éviter, et peut-être qu'il peut y avoir aussi une cartographie négative, c'est-à-dire les endroits où il ne faut pas aller parce qu'il y a trop de contraintes, et que de toute façon, le premier projet qui serait déposé pour une centrale photovoltaïque aurait trop d'avis défavorables parce qu'il y a des espèces protégées, parce que donc c'est pas la peine d'aller encourager. Si le travail amont de diagnostic est bien fait au départ, là, pour le coup, ça facilitera et ça permettra d'accélérer le processus et l'installation d'un projet quand il va arriver. Et encore une fois, en ayant un mix énergétique, donc il ne faut pas avoir d'a priori sur tel, c'est plutôt analyser le territoire, savoir ce qu'il peut accueillir et savoir éviter les secteurs à plus fort enjeu, réduire les impacts sur les secteurs en enjeu modéré. Et quand vraiment, bon, il y a des impacts inévitables, prévoir aussi des dispositifs de compensation qui, là aussi, peuvent s'analyser à l'échelle intercommunale. L'échelle de la commune étant souvent trop restreinte pour avoir cette approche en termes de développement. Donc, ça vaut aussi pour l'éolien. Il n'y a pas d'exclusion. Et comme nous ne prononçons jamais sur l'opportunité, on n'est ni pour ni contre l'éolien, ni pour ni contre le photovoltaïque. On fait des recommandations quand les projets ne sont pas aux bons endroits en fonction des enjeux locaux. Alors sur le territoire, vous avez un sujet particulier, c'est les gravières. Donc on disait tout à l'heure, effectivement, la commission de régulation de l'énergie fixe des orientations en disant il faut privilégier les zones déjà imperméabilisées, les zones de friche, les zones anthropisées. Et ben, certains pourraient dire ben, les gravières, c'est d'origine anthropique. Hein. C'est pas si simple que ça, parce que des gravières qui existent depuis quelques années peuvent être devenues le site, l'abri ou la zone de repos de cortèges d'oiseaux qui peuvent être très intéressants, voire même de chauves-souris. Et on sait que si on met des panneaux flottants sur ces gravières, ça réduit forcément les surfaces en eau disponibles pour la chasse, pour l'abreuvement. Donc comment on concilie ces deux enjeux? Ça veut dire aussi que là, on ne peut pas analyser point par point. Il faut peut-être avoir une réflexion sur une caractérisation de vos plans d'eau. Quel plan d'eau, alors je ne sais pas si c'est le cas dans votre commune, pourrait être en priorité à usage récréatif? Quel plan d'eau à usage énergétique et quel plan d'eau à usage naturel pour accueillir ces populations d'oiseaux ou de chiroptères? Ça veut dire aussi qu'il faut avoir une réflexion en termes d'impact cumulé, parce que ce qu'on voit autour de la Garonne, c'est des fois la multiplication des projets dans des périmètres assez proches. Et donc, ce qui peut être acceptable et qui ne nuira pas à une population d'oiseaux si on a un ou deux sites qui sont équipés de panneaux, peut ne plus du tout être acceptable si on va trop loin dans l'équipement. Donc là aussi, c'est une réflexion à l'amont qu'il faut avoir en fonction des caractéristiques des gravières, avoir un bon diagnostic et de bons inventaires sur ce qu'il y a dessus, et avoir sur la base, je sais que vous avez déjà fait des travaux avec la fédération de chasse ou autre pour caractériser ces plans d'eau, poursuivre, et surtout avoir cette idée qu'il ne faut pas aller trop loin. Et que ce n'est pas parce que c'est des sites qui sont d'origine humaine qui sont forcément sans enjeu au niveau naturel.
On va peut-être passer à la phase de questions. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des interrogations sur ce sujet?
On répondra à deux voix.
Alors moi, j'avais plus une remarque qu'une question. Les suggestions que vous avez faites sont tout à fait pertinentes et je les rejoins complètement. Sauf que notre champ d'action, nous, élus, ben, ce n'est pas toujours nous qui avons la compétence. Parler de mobilité, nous n'avons pas la compétence. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, comment alors mettre un vœu pieux, j'allais dire, sur un document, on est pour et on le fait, j'allais dire, vraiment. C'est comment, finalement, globalement, tous ces enjeux et tous ces efforts que nous faisons et des réflexions que nous faisons à l'échelle du territoire, comment on les fait suivre quand c'est pas nous qui sommes compétents dans le domaine. Voilà. Et après, on a oublié, l'hydrogène dans le bilan des possibilités, parce que quand on va mettre des panneaux photovoltaïques et on va faire la massification des énergies des panneaux photovoltaïques, il va se poser le problème du réseau qui va recevoir cette énergie. Je ne veux pas me tromper, je pense qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà. Et à un moment donné, il y a une capacité de réseau qui est là et je ne sais pas comment c'est prévu de prendre en compte entre massification, existence de réseau, obligation, il y a tout ça. Et donc, il me semble, peut-être que je me trompe, que une batterie intéressante reste l'hydrogène, puisque tout ce qui est le surplus d'énergie qu'on ne consomme pas peut être transformé via une pile combustible, je ne vais pas rentrer dans les détails, en surplus d'énergie, et peut-être être un tampon par rapport à la capacité du réseau. Donc, est-ce qu'on ne doit pas rajouter quelque part l'hydrogène, même si ce n'est pas une ressource naturelle directe dans la réflexion collective? Et après, pour les gravières, pour finir, excusez-moi, j'hésitais à en parler, mais je vais le faire quand même. Je vais prendre un cas concret sur notre territoire, sur mon EPCI. On a un projet d'une grande entreprise qui s'est approprié une gravière pour mettre des panneaux photovoltaïques dessus, voilà, flottants. Vous avez mis un avis plutôt défavorable en disant que l'étude n'était pas assez complète et qu'il fallait être sûr que les élus étaient contre. Et il y a eu un permis d'État qui est venu au-dessus et qui a donné toute autorisation. Et là, je me pose la question de la cohérence globale. Voilà.
Sur la mobilité, vous partez pas de rien. Il y a des gares sur le territoire, il y a une gare à Carbonne, etc. Il y a un aménagement qui est en cours autour de la gare de Carbonne et autres. Donc la question, c'est pas seulement rejoindre le train. Il y a déjà des mobilités douces alternatives qui existent. Donc déjà, c'est les valoriser et créer un urbanisme qui fait qu'on puisse aller prendre le train. Si on habite à Carbonne, mais à 2 km de la gare, on va pas forcément avoir le réflexe de prendre le train parce qu'il va falloir faire 2 km de voiture. Donc il y a déjà cette réflexion sur l'armature au sein de la commune. Et puis après, il y a le trajet du quotidien. Allez, là, il y a un lycée qui s'est implanté à Caserres. C'est comment tout ce travail autour de Caserres-Palamini pour que les jeunes aient moins à prendre les véhicules motorisés, y compris les scouts ou autres. Il y a tout un travail qui peut être fait sans être autorité des transports et sans avoir à développer de transport. Après, il y a des échanges qui peuvent être avec la région et autres. Après, sur les capacités du réseau, il y a au niveau des ENR, alors je parle de l'électricité, il y a un schéma régional qui existe, le S3RENR qui vient d'être approuvé, donc qui prévoit des investissements de renforcement de réseau, qui prévoit des investissements de création de postes sources, qui prévoit justement, et tout ce travail qu'a fait RTE pour élaborer le S3RENR, a été fait en collaboration avec les porteurs de projets. RTE a travaillé pour renforcer les réseaux là où il y avait du potentiel. Le S3RENR prévoit... Ah, sur la loi d'accélération. Mais le S3RENR, c'est quelque chose, c'est comme un PLU, ça se révise. Hein. Ça avance, ça se révise, il y a des mécanismes de transfert d'un poste à l'autre. Mais ce mécanisme existe, et ce mécanisme, en fait, il est là aussi pour rémunérer comment on va payer ces travaux sur le réseau. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a été fait, qui est approuvé là depuis le début de l'année ou fin 2022, je ne sais plus. Mais donc sur le réseau électrique, il y a vraiment, c'est assuré. Sur le réseau gaz, ça se travaille différemment, c'est plus au coup par coup, mais on n'est pas sur les mêmes volumes et la même massification. Sur le réseau hydrogène, il y a des réflexions, mais il n'existe pas aujourd'hui. Alors l'hydrogène, il existe beaucoup de types d'hydrogène, il y a l'hydrogène vert, l'hydrogène gris, tout n'est pas issu d'électricité renouvelable. Et donc l'hydrogène, un des avantages, c'est du stockage d'énergie. Il y a d'autres techniques de stockage d'énergie. Il y a des sociétés privées qui créent des méga piles batteries. Il y en a une qui s'installe à Albi, il y en a une qui s'installe à Verfeil. Il y a des grosses batteries qui s'installent électriques, tout simplement, qui permettent de faire tampon sur le réseau. L'hydrogène, c'est une solution. C'est pas la solution la plus efficace. C'est-à-dire qu'il faut produire de l'électricité, transformer l'électricité en hydrogène, retransformer, etc. Donc il y a une terme d'efficacité. Mais s'il y a un surplus, ça peut être une solution. Mais voilà, mais c'est pas la plus efficace. Donc il y a un terme d'efficacité d'énergie, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et ça fait partie du mixte en termes de tampon, on va dire. Pour aujourd'hui, on n'est pas sur une massification encore de l'hydrogène, mais il faut pas le négliger tout à fait. Après, il faut produire l'hydrogène.
Sur l'hydrogène, on peut pas avoir des unités de production d'hydrogène partout sur le territoire. Il y a quand même des usages privilégiés sur l'hydrogène. On imagine plutôt le développement de l'hydrogène autour de cimenteries, autour de grosses usines de consommation d'électricité. Quand il n'y a pas la source d'électricité localement, donc on amène le gaz et puis ou on fabrique le gaz sur place. C'est pas une solution de stockage à disséminer sur tout le territoire et ça peut être aussi que sur des usages, par exemple sur des flottes de bus, ça peut pas être sur la voiture individuelle. Enfin voilà, l'hydrogène, il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours. C'est quand même pas la solution miracle qui va résoudre tous nos problèmes. C'en est une. Je suis pas sûre, du moins à ce jour, que ce soit la solution à disperser sur tous les territoires. Il y a d'autres solutions en attendant qu'on ait avancé en termes de recherche technologique sur ce sujet. Après, vous disiez, l'État accorde le permis alors que les élus sont pas pour et que notre avis était réservé. Alors, d'une part, notre avis, comme il est ni favorable ni défavorable, chacun fait ce qu'il veut. Après, il peut y avoir du contentieux. Après, voilà. Mais on émet aussi des avis sur des dossiers de l'État. Donc, on est une autorité indépendante. Mon patron, c'est pas le ministre de l'écologie. Non, mais oui, quand l'État peut porter une route nationale ou une autoroute, et puis l'avis de la E nationale ou de la MRAE peut être assez critique. C'est ce qui nous positionne, c'est un avis supplémentaire. dont peuvent s'emparer les personnes intéressées par ce projet dans le cadre des consultations du public et dans le cadre des contentieux. Mais effectivement, il n'y a pas toujours cohérence totale et ça n'a rien d'étonnant.
Sur la cohérence, là, pour le coup, je rejoins totalement le SCOT, les PLU. Vous n'avez pas encore de PLUI, mais les PLU. La cohérence, c'est aussi à vous de vous en emparer et de la créer. Le SCOT, c'est un schéma de cohérence. Et si vous créez des zones, on vous disait, alors nous, on est sur les enjeux, on n'est pas sur l'opportunité, on est sur les enjeux environnementaux qui sont très larges. Si vous créez déjà des zones d'exclusion, vous réglez déjà une question de la cohérence, puisque vous allez interdire des projets là où vous n'en voulez pas, d'un point de vue environnemental, ou qui se justifie en tout cas. Après, les zones favorables, c'est un autre sujet. La loi, c'est des choses qui ne créent pas de droit d'urbanisme, donc c'est un autre sujet. Mais rien ne vous empêche, dans un PLU aussi, de créer des zones ENR, etc. Donc la cohérence, en tant qu'élu, vous pouvez la créer. Le SCOT est le moment de poser vraiment une première pierre très forte sur la cohérence. Quand vous parlez des gravières, c'est de créer une cohérence sur l'usage des gravières. Donc c'est vraiment le mot que vous avez utilisé, le très bon. Mais vous avez une première clé. L'État ne pourra pas autoriser un projet si vous êtes sur une zone naturelle qui interdit les projets photovoltaïques.
Il y avait d'autres interventions.
Oui, Loïc Blanc d'Enercop Midi-Pyrénées. Juste une question, justement, je reprends votre mot cohérence, ça tombe très bien, sur comment anticiper les mutations futures. À savoir, aujourd'hui, on équipe le territoire d'unités de production, grosses, petites, etc. Et justement, sur les enjeux de stockage, comment prévoir de manière cohérente et sans que ce soit trop contraignant d'anticiper de futures installations de stockage sur des sites qui ont déjà eu des autorisations, etc. On n'avait pas forcément prévu d'installer des zones de stockage, mais on va devoir le faire et faire en sorte que ce soit assez simple, rapide, et que le PLU, ou en tout cas le SCOT, ne dise pas non, là, stockage, t'es pas prévu. Donc, c'est avoir ça en tête, qu'il y a des mutations futures très vite qui vont arriver, parce que si on arrive à nos objectifs solaires, 2030-2035, on va avoir des surproductions solaires, il va falloir à un moment stocker et rééquilibrer sur le réseau. Et donc, il y aura peut-être un intérêt de stocker et d'avoir des stratégies de flexibilité sur la redistribution de cette énergie. Oui. Donc, comment déjà anticiper ces futurs besoins et ces futurs équipements, surtout, qui vont arriver sur le territoire?
Là, pour le coup, je ne saurais pas vous dire. Le S3RENR ne répond pas à cette question du stockage de manière particulière. Donc, ça, c'est une. Aujourd'hui, les projets qu'on voit de stockage sont des projets privés d'opportunités. Et donc, je ne saurais pas vous répondre. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure sur comment on stocke l'énergie, au-delà des plans d'eau qui sont du stockage d'énergie. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de schéma là-dessus et je n'ai pas cette réponse. C'est une très bonne question.
Une intervention d'Enedis.
Oui, bonjour, Dominique Pontrouche, société Enedis. Donc, je représente la distribution d'électricité. Vous avez parlé d'RTE, hein, pour resituer. RTE va gérer le réseau de transport jusqu'au poste source. Et nous, on gère le réseau de distribution, donc à partir de 20 000 volts, jusque sur les maisons, les usines, ainsi de suite. Et donc, on est partie prenante du S3RENR. Et effectivement, la grande majorité des projets que vous réalisez, hein, qu'ils soient en consommation ou en production, sont raccordés au réseau de distribution publique d'énergie et donc au réseau géré par Enedis. Le but du S3RENR, c'est effectivement de répondre à tout ce que vous évoquez à l'instant. C'est bien sur une période de 10 ans de se projeter, donc il a été fait à la Mayoc-Occitanie, mais il est déployé vraiment dans tous les départements, de se projeter pour dire comment RTE et Enedis font évoluer le réseau, adapte le réseau en fait aux nouveaux usages, hein, parce qu'en fait notre réseau il s'est transformé au fur et à mesure de l'évolution. Hein. Il y a quelques années, on était sur un système pyramidal avec une production en haut et ça descendait. Aujourd'hui, de la production, vous en avez partout. On vous parlait beaucoup des beaux gros projets, mais il faut savoir que l'impact le plus fort sur notre réseau aujourd'hui, c'est les centaines de petits projets qui sont réalisés par les particuliers, qui ont un très fort impact sur le réseau de distribution. Et donc, pour répondre en partie, hein, parce qu'en fait, on avance en même temps que vous, on adapte le réseau, effectivement. La loi S3RENR nous aide à planifier à plus long terme et à prévoir. Vous parliez des capacités du réseau. Nous, notre objectif, c'est de permettre aux projets de se raccorder. C'est pas de dire « on peut pas vous accueillir ». C'est vraiment l'objectif. C'est de permettre de le faire. Alors, sur des gros projets, quand un porteur de projet arrive avec plusieurs mégawatts, on va peut-être lui dire, ben, là, en 2024, ça va être compliqué de raccorder autant de mégawatts. Par contre, à un horizon 1, 2, 3, voire plus loin, on sera en capacité de faire, vous voyez. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait sur la durée pour permettre d'accueillir les usages, hein, et vous parliez du stockage. Alors, c'est très récent, hein, et bon, vous parlez de l'hydrogène, on voit arriver des choses. Aujourd'hui, l'hydrogène, le rendement en fait au final de production est quand même pas très bon, donc effectivement, ça interroge. Mais l'idée, c'est bien de dire, on développe le réseau et on essaye d'anticiper pour pouvoir accueillir les besoins. Et c'est ce qui a été dit avant aussi, on va fournir les données pour pouvoir éclairer votre choix sur les zones d'accélération, par exemple. Si vous allez donner des réseaux, des capacités des réseaux au jour à date sur quand vous faites votre réflexion, ça va éclairer votre choix sur les zones d'accélération. Voilà, on participe à ce niveau-là au travail que vous faites.
Une dernière toute petite question alors.
Oui, Jacques Doumer, président du Conseil de développement du Pays du Sud Toulousain. Plutôt rester sur une remarque en fait, c'est qu'on a parlé beaucoup du rôle notamment de la MER, mais en fait très peu sur la concertation. Et on voit bien, quand on entend l'ensemble des projets, évoquer ce type de projet, ça génère auprès de la population et des citoyens des réactions, comment dire, je dirais passionnées et parfois un peu vindicatives. Donc il me semble quand même que dans tout ce processus, c'est un petit peu d'ailleurs une question qui était aussi, qui aurait pu concerner votre intervention, c'est qu'en fait on ne parle pas de concertation amont. D'ailleurs un projet comme Semtegabel par exemple, qui devrait servir d'exemple, c'est qu'en fait, à partir du moment où on commence à la concertation très en amont, c'est-à-dire qu'on fait de la pédagogie, qu'on explique le plus, le moins, tous les éléments que vous venez d'évoquer, ça permet quand même d'éviter effectivement ensuite des réactions pour lesquelles ça sera très très difficile de les décrisper. Voilà, bon, je ne suis pas sûr que vous ayez une réponse par rapport à ça, mais...
Nous, notre ambition quand on produit des avis MRAE, c'est de contribuer justement à éclairer ces débats à l'amont et désamorcer, si nécessaire, les conflits locaux. Parce que si le public est mal informé, qu'il découvre tout quand le projet démarre, ou si le public a l'impression qu'il n'a pas été bien écouté ou bien compris, pas forcément sur des petits projets, mais sur des projets importants, on peut avoir des risques de crispation, de rébellion, de... Notre ambition, alors modestement, hein, parce qu'on n'est qu'une brique, hein, mais on est là aussi pour aider à mieux le citoyen, mieux participer aux phases de concertation et de consultation du public. Quand on donne un avis sur un PLU, sur un SCOT, au vu de ce qu'il y a dans l'étude d'impact et des diagnostics, on peut dire, on peut recommander qu'on recherche des zones alternatives parce que la zone proposée pour du développement de l'ENR ne nous paraît pas être la bonne.
Oui, et donc pour vous confirmer en effet que la loi prévoit une phase de concertation qui devrait être initiée par les communes dans le cadre de l'établissement des zones d'accélération. Ouais.